Vous écoutez
RMC.
RMC Bourdin Direct.
Jean-Jacques Bourdin.
Geoffroy Roux-de-Bézieux, bonjour.
Bonjour.
Président du MEDEF. Covid, cinquième vague. Inquiétude dans les entreprises, j'imagine. Que faire? Demander plus de contrôle de l'inspection du travail pour que les gestes barrières soient respectés à l'intérieur de l'entreprise?
Inquiétude, oui, panique, non. J'allais dire, malheureusement, la cinquième vague, on commence à avoir un peu le calme des vieilles troupes, mais malheureusement, on a l'habitude. Alors, ce qui est vrai, c'est que, on le sait tous, les gestes barrières se sont un peu relâchés partout, dans la vie privée comme dans la vie de l'entreprise. Donc, nous, on lance un appel ce matin à nos adhérents, on va envoyer un mail à tous les adhérents pour leur dire de se remobiliser sur gestes barrières, notamment le port du masque en réunion, qui a un peu disparu, les jauges pour certaines réunions, pour qu'on puisse éviter plus de mesures contraignantes qui pourraient nous tomber dessus dans quelques semaines.
Des mesures contraignantes, c'est port du masque obligatoire dans les entreprises, mais c'est surtout le télétravail.
Alors,
Vous redoutez le télétravail ?
Alors, je commence par le pire des mesures, qui seraient des mesures de restriction, comme on en a connu.
Le confinement ?
Je pense pas qu'il y ait confinement généralisé, mais par exemple, tout simplement, réduire la jauge dans les centres commerciaux ou demander le pass sanitaire en pleine période de Noël sur des commerces qui ont beaucoup souffert, ça serait une catastrophe. Je le dis maintenant, si jamais il y a...
Pas de pass sanitaire dans les centres commerciaux.
Parce que on est dans la période, que ça, tout le monde le devine, 15 novembre, 15 décembre, c'est la période clé pour les courses de Noël. Sur le télétravail, je pense qu'il faut laisser le dialogue social de proximité se faire. Il y a eu beaucoup d'accords de signer. Vous savez qu'on a signé un accord il y a maintenant un an, un an.
Oui,
qui donne un peu le cadre des protocoles. Ça avance bien dans les entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont signé des accords. Les petites ont signé des chartes ou ont donné un ou deux jours. Donc je pense qu'il faut laisser faire. Et effectivement, les chefs d'entreprise doivent se remobiliser sur le télétravail. Mais pas d'obligation.
Faisons confiance. Vous avez vu en Belgique ?
Oui, j'ai vu ça.
Obligatoire.
Je pense que ça serait une erreur.
Le télétravail, 4 jours par semaine jusqu'au 13 décembre et 3 jours ensuite.
Je pense que ce serait une erreur. Et puis, ne surestimons pas le nombre de gens qui télétravaillent. Vous savez, les postes télétravaillables, c'est 20% des postes. Donc, je veux dire, c'est pas non plus l'ensemble des Français.
Est-ce que ça crée des jalousies dans les entreprises ?
Je sais pas si le mot jalousie est le bon, mais ça crée un sentiment parfois de
Incompréhension, alors.
Oui, d'incompréhension ou de frustration pour ceux qui ne peuvent pas télétravailler.
Oui.
Et moi, je vois beaucoup d'entreprises, notamment industrielles, qui demandent à leur cadre administratif de ne pas télétravailler pour créer, au fond, un sentiment d'égalité entre ceux qui sont postés à la chaîne ou ailleurs et ceux qui peuvent télétravailler.
Donc, vous dites non à l'obligation de télétravail ce
non,
matin.
Non, je dis oui. Non à l'obligation, mais oui à un effort supplémentaire des entreprises.
Non à l'obligation, mais oui à un effort supplémentaire. Envisager une troisième dose pour tous, c'est ce que dit le conseil scientifique. Nous allons tous y passer. À la troisième dose, passe sanitaire, conditionné à la troisième dose, vous pensez que c'est utile ?
Et moi, je me range à l'avis des scientifiques.
Oui.
C'est ni vous ni moi qui avons l'expertise pour répondre à ça. Si le conseil scientifique dit qu'il faut une troisième dose, il serait logique que le pass sanitaire soit conditionné à cette troisième dose. Ça a commencé pour les plus de 65, si je me trompe pas.
Plus de 65.
Et donc, il faut que ça suive. Donc oui, nous, on a toujours été pour le pass sanitaire. Si vous vous souvenez, il y avait beaucoup d'inquiétudes sur l'obligation du pass sanitaire pour un certain nombre de métiers ou de lieux publics. Ça se passe très bien. On n'a eu aucun problème. Oui. Souvenez-vous de la polémique de septembre.
Ça n'a pas freiné l'activité.
Non. Et souvenez-vous de la polémique qu'il y a eu en septembre sur quelqu'un qui refuse au bout de quelques mois, on doit pouvoir le licencier. Ça ne s'est pas produit. Donc,
il n'y a pas eu un licenciement à cause de ça.
Très peu de remontées. Je ne peux pas vous dire exactement combien il y en a eu. Donc, je pense que les Français, dans leur ensemble, ont bien compris l'intérêt du pass sanitaire et du vaccin. Et donc, nous, on est favorable à ce que la troisième dose, si elle est utile scientifiquement, encore une fois, moi, je ne suis pas expert, soit mise en place et rendue obligatoire.
Et que le pass sanitaire soit conditionné à la troisième dose.
Exactement.
Vous y êtes favorable.
Tout à fait.
Et le confinement des non-vaccinés ? J'ai vu que la Slovaquie à son tour, venait de mettre en place ce
confinement. Là, je m'exprime à titre personnel, oui, parce que c'est un sujet presque citoyen. Moi, je n'y suis pas favorable. Je trouve qu'on a donné, si j'ose dire, une part de notre liberté pour lutter collectivement contre cette pandémie. C'est toujours très difficile de trouver l'équilibre entre, j'allais dire, santé publique et liberté. Là, on irait dans une discrimination qui me paraît pas dans nos traditions.
Un nouveau confinement serait catastrophique.
On aurait beaucoup de mal à s'en mettre sur le plan économique. Beaucoup de mal. Le quoi qu'il en coûte, qui pour tout le monde semblait inépuisable, il n'est pas inépuisable. On le voit bien avec le coût total de cette opération. Alors aujourd'hui, il y a une forme d'euphorie parce que la reprise a été extraordinaire. Mais il faut pas oublier que tout ça a coûté beaucoup d'argent. On peut pas se payer un troisième ou un cinquième, quoi qu'il en coûte, si j'ose dire. Ouais.
Elle est extraordinaire, la reprise. Je vais y revenir, mais elle est vraiment extraordinaire.
Oui, souvenez-vous, là aussi.
C'est exceptionnel. Alors, vous avez déjà connu ça?
Non, 6,8% de croissance, ma génération. Je crois que la dernière fois qu'on a fait plus de 6% de croissance, c'est les années 60. Hein. Donc, elle est exceptionnelle. Souvenez-vous quand même, en juin 2020, l'INSEE, la Banque de France nous prédisait 1 million de chômeurs, le mur des faillites, etc., etc. Il y avait juste une organisation professionnelle patronale qui disait, le pire est pas certain, le MEDEF. Bon, il se trouve qu'on a eu raison avant les autres, mais elle est exceptionnelle. Dans son ampleur. Moi, j'aurais jamais imaginé qu'on retrouve le niveau d'emploi pré-Covid aussi rapidement.
On va parler d'emploi et salaire avec la reprise, évidemment, Geoffroy Roux-de-Bézieux. Quelques mots sur les Antilles, la Guadeloupe, la Martinique. La situation est explosive en Guadeloupe. Elle l'est aussi, malheureusement, en Martinique, qui est en grève générale. Alors, parmi les principales revendications, toutes celles qui concernent évidemment la crise sanitaire, mais aussi des revendications sociales, avec des revendications salariales, qui là-bas encore et là-bas aussi, comme en métropole, s'exprime. Quelle solution ? Rétablir l'ordre, j'imagine.
Il faut d'abord rétablir l'ordre.
Oui.
Ensuite, je pense qu'il faut adapter les obligations sanitaires à l'état d'esprit de la population locale, qui manifestement. Oui, je voudrais pas, je suis pas assez spécifique. J'étais une fois en Guadeloupe il y a un an, donc je connais pas assez le territoire, mais manifestement, il y a dans la population une attitude vis-à-vis du vaccin et plus globalement, les progrès de la médecine qui est quand même beaucoup plus vaccino-sceptique, si j'ose dire. Donc, faut en tenir compte. Sur le plan économique, on fait déjà énormément pour les DOM et pour les TOM de Guadeloupe et les autres.
Il y a 35% beaucoup de chômage en Guadeloupe.
Oui, mais alors, moi, le peu que j'ai vu sur le plan économique, c'est l'absence d'agents économiques locaux qui fait qu'on importe pratiquement tout depuis la métropole et qu'il y a des prix qui sont en moyenne 30% supérieurs à ceux de la métropole. Il y avait sur une autre antenne ce matin, sur votre antenne, Nicolas Poincaré citait le cas du poulet bio à 50 euros dans je ne sais plus quelle chaîne de supermarché.
Oui.
On marche sur la tête, même sur le plan carbone, sur le plan émission carbone, faire venir de la métropole, c'est absurde, c'est absurde. Donc il y a quand même des sous-jacents économiques à corriger, il me semble.
Bien, revenons à la reprise. Donc, reprise exceptionnelle, c'est vrai qu'on sera à pratiquement 7% de croissance à la fin de cette année 2021. Est-ce que les bas salaires sont les oubliés de cette reprise, franchement ?
Alors, ils sont pas plus oubliés que les autres, puisque d'une certaine manière, ils étaient bas avant la crise et ils sont toujours bas.
Malheureusement.
Ce qui a été mis en lumière, c'est deux choses, je pense. C'est effectivement des salaires assez bas dans un ensemble de métiers de service à faible valeur ajoutée. Je pense aux agents de nettoyage, agents de sécurité, à la restauration. Et la deuxième chose, c'est le coût de travailler, qu'on oublie toujours. Il y a un coût de travailler. Ce coût de travailler, c'est la voiture qu'on prend pour aller travailler. Mmh. C'est le logement dans les métropoles qui a beaucoup augmenté. Et donc, il y a un problème de, je vais le dire
et
simplement...
L'énergie
se chauffer. Oui. Et c'est vrai que des emplois payés au SMIC dans des métropoles où le coût de la vie est très élevé, il y a
comment
un problème d'équation.
Comment fait-on quand on gagne le SMIC ou juste au-dessus du SMIC, quand on habite Paris ou la région parisienne ou une grande métropole, comment fait-on pour se loger? Comment fait-on pour finir ses fins de mois? Alors, quelle solution?
Alors,
augmentation du SMIC? Première question, augmentation du SMIC
non,
ou pas?
Non, je ne crois pas que ça soit la bonne solution.
Mais pourquoi?
Mais pour une raison simple, c'est que l'effet d'une augmentation générale du SMIC se répercute sur tous les salaires, sur tous les entreprises.
Et bien alors?
Oui, mais sauf que toutes les entreprises ne sont pas dans la même situation. Que vous, quand vous êtes, je ne sais pas, à Périgueux ou quand vous êtes à Paris, vous n'avez pas les mêmes contraintes, les salariés n'ont pas les mêmes coûts. Et donc je pense que c'est entreprise par entreprise ou branche par branche que ça se résout. Il y a 57 branches aujourd'hui qui sont en train de négocier. Alors, tout le monde a vu l'hôtellerie-restauration qui est très médiatique. Mais entre guillemets, il n'y a pas que l'hôtellerie-restauration dans la vie. Il y a, je vous dis, 57 branches qui négocient. Il y aura beaucoup de négociations cette année en entreprise. Mais j'ajoute un point. Je prends le cas de l'hôtellerie-restauration est emblématique. Il faut aussi qu'on sorte de l'économie low cost. Dans la restauration, le salaire, enfin les salaires, pardon, c'est 60% du prix final. Oui. Si on augmente les salaires de 5 ou de 10%, ça doit se répercuter.
Ça va se répercuter sur les prix.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous collectivement consommateur final ou acheteur de services les agents de nettoyage, etc. On doit avoir aussi conscience qu'un moment, il faut accepter de payer un peu plus cher sur ces métiers-là.
Est-ce que vous dites ce matin à tous les chefs d'entreprise, est-ce que vous leur dites ce matin, augmentez les salaires?
Je ne vais pas dire ça pour une raison très simple. Pour une raison très simple, c'est que ce n'est pas moi qui suis, vous savez, l'expression du patron des patrons est en fait ridicule.
Oui, non, mais Geoffroy Roux, est-ce que c'est un conseil alors?
Non, ce que je dis simplement, c'est que l'année 2021...
Ouvrez des négociations salariales.
Elles sont quasiment ouvertes partout. Ça se passe généralement, ça s'appelle la NAO.
Elles doivent être ouvertes partout.
C'est la loi. N'oubliez pas que c'est la loi, il y a la loi.
Oui, c'est vrai que c'est la loi.
C'est la loi. Donc en général, les chefs d'entreprise respectent la loi. Non, mais ce que je dis simplement, c'est que l'année 2021 va être très bonne pour la plupart, pas toutes, la plupart des entreprises. Ce qui veut dire d'abord qu'il faut faire profiter les salariés de cette année. Ça passe par intéressement, participation, qui vont être mécaniquement très élevés cette année, après avoir une année difficile en 2020. Ça passe par la prime, entre guillemets, dite Macron, qui est celle, finalement, qui remplace l'intéressement par participation dans les petites entreprises. Et puis, ça passe par des augmentations de salaire. Mais ne demandez pas un chiffre.
Non,
ne demandez pas une directive. Parce qu'encore une fois, entre une PME du bâtiment du sud-ouest de la France et un grand groupe international, les circonstances sont très
différentes. C'est vrai, Geoffroy Roux de Bézieux. Mais je me mets à la place des salariés qui voient les dividendes versés en forte augmentation. C'est normal, puisqu'il y a de très bons résultats. Les dividendes versés vont être en forte augmentation. Je me mets à la place du salarié.
Vous avez raison de vous mettre à la place du salarié. Oui, mais je me rappelle que les dividendes, ils ont baissé de 14% l'année dernière. Mmh. Les salaires, heureusement, et d'ailleurs c'est évident, n'ont pas baissé. Donc la variabilité du dividende, c'est le risque de l'actionnaire. Donc il est logique qu'après moins 14, on ne connaît pas le chiffre de 2021, les dividendes augmentent. Mais la réponse, elle est dans la participation, dans l'intéressement, dans les primes qui varient. Elle aussi, en fonction des résultats.
On l'a généralisé, cette participation. Généraliser cet intéressement. Comment faire?
La généralisation de la participation, c'est la prime Macron. Souvenez-vous, ça avait été une prime, entre guillemets, exceptionnelle une année. On s'aperçoit que maintenant, elle est chaque année.
Vous souhaitez qu'elle soit chaque année?
Moi, je conseille aux chefs d'entreprise d'utiliser cet outil, puisqu'il est défiscalisé. Quand il verse 100 euros, pour le faire simple, ou 500 euros à un salarié, c'est 500 euros dans la poche du salarié.
Oui.
Vous savez très bien que quand on verse 500 euros de salaire, il y a 30% de charges patronales, 20% de charges, enfin, ça dépend des salaires sociaux, et en réalité, en net-net, il en reste beaucoup moins. Donc, c'est le meilleur outil, entre guillemets, pour partager la bonne année 2021.
Les prix, est-ce que les prix vont encore augmenter, vous pensez?
Alors, ça, c'est un débat. J'ai presque envie de vous répondre, je ne sais pas, mais je n'ai pas le droit de répondre ça à la radio. Il y a un débat, en fait, entre l'intuition micro-économique des entrepreneurs qui disent les prix des matières premières ont fortement augmenté. Le beurre, moi j'ai une entreprise de gâteaux au chocolat, 29% le beurre. 29%. Ouais. Donc ça veut dire qu'il va y avoir...
Ça veut dire que les prix vont augmenter.
Les prix vont augmenter. Et puis tous les économistes, presque tous les économistes, la Banque de France, qui disent non, c'est conjoncturel, ça va s'arrêter en 2022. Rendez-vous si vous m'invitez encore dans un an, on verra.
Et l'inflation?
Du coup,
ça vous inquiète? Est-ce qu'elle est inquiétante? Il y a une poussée d'inflation, est-ce qu'elle est inquiétante?
Écoutez, si on reste dans des chiffres 2, 3, 4, 5%, au fond, pas une catastrophe. Si on revient à ce que existait dans les années 70 ou ce qui existe en Amérique du Sud, ce qu'on appelle la boucle inflation-salaire, c'est-à-dire que les salaires courent en permanence après l'inflation, là on rentre dans quelque chose de dramatique pour l'économie, parce qu'on perd confiance dans l'avenir. Donc c'est une question de mesure presque.
Je voudrais terminer avec l'emploi, Geoffroy Roux-de-Bézieux. Est-ce que vous croyez au plein emploi en France?
Oui, je pense que c'est pas impossible.
Vous pensez que c'est possible?
Alors le plein emploi, ça veut dire 3-4% de chômage.
3-4%. On est à 8%.
On est tendanciellement vers 7. Hein.
Moyenne de l'Union européenne, 6,9%. L'Allemagne, 3,6%. Les Pays-Bas, 3,1%. La Belgique, 5,9%. Donc le plein emploi, c'est autour de 5%. Hein, en France, vous y croyez?
C'est possible, et je vais vous dire à quelles conditions.
Oui.
La condition numéro 1, c'est la formation. C'est-à-dire qu'on va arriver à un niveau de chômage où les demandeurs d'emploi qu'on cherche à employer ont un énorme problème de formation parce qu'ils n'ont pas travaillé depuis très longtemps, parce qu'ils n'ont pas suivi les bonnes filières, parce qu'ils sont sortis de l'école sans formation. Et c'est là où on a un vrai travail à faire avec Pôle emploi. Il y a 15 milliards d'euros qui ont été mis par ce gouvernement sur un programme qui s'appelle le PIC pour les demandeurs d'emploi. Aujourd'hui, nous, chefs d'entreprise, entre guillemets, on n'en voit pas la couleur. Non pas de l'argent, mais du résultat de cette formation. Et là, je pense qu'il y a un travail à faire. On a reçu le patron de Pôle emploi il y a maintenant 8 jours pour essayer de mieux, si vous voulez, former les demandeurs d'emploi aux métiers qui ont besoin de recruter.
Est-ce que vous demandez plus de souplesse dans les contrats de travail ou pas? Non.
En tout cas, c'est pas le problème numéro un aujourd'hui, très honnêtement. Ouais.
Est-ce que les emplois aujourd'hui on manque de main-d'œuvre? On le sait, on manque de bras. Est-ce qu'aujourd'hui les emplois proposés sont des CDI ou des CDD en majorité?
Je me permets de vous corriger, j'aime pas l'expression manque de bras.
Manque de cerveau aussi.
Non mais voyez, c'est vrai que moi je n'ai jamais vu une situation pareille.
Vous n'avez jamais vu ça?
Un chef d'entreprise me dit, on a fait un sondage, 60% d'entreprises n'arrivent pas à recruter. Est-ce que on recrute en CDI majoritairement, hein, le poids des CDI dans le recrutement et dans les offres d'emploi a fortement monté depuis la crise, mais je crois pas que ça soit un problème de contrat de travail.
Il y a un problème d'attractivité des métiers aussi.
Alors c'est combiné. Vous avez un problème, je pense, d'attractivité des métiers. Dans certains métiers, on sait, hôtellerie-restauration. De salaire, on en a parlé. De mobilité aussi. Il y a des régions qui sont au plein emploi. Vous me demandez si c'est possible. Vous allez à Laval, vous allez en Vendée, vous allez même en Charente. Vous êtes dans des taux de chômage qui sont proches du plein emploi. Mais il y a des endroits, je vais pas citer les villes, où on est à 13 ou 14%. Donc on n'arrive pas à faire déplacer les gens pour un emploi. C'est vrai d'ailleurs en mobilité interrégionale, c'est vrai aussi en micro-mobilité. Les Français, dès que ça dépasse 20-25 km, ils ont un problème, ils ont un problème de pouvoir d'achat, de dépenses contraintes, évidemment. Donc voilà, on boucle avec le salaire.
Je parlais d'attractivité du travail, et puis il y a ce phénomène de salariés qui travaillent pendant 6 mois, 1 an, puis qui arrêtent. Mais on voit ça avec les infirmières, par exemple, ou infirmiers. On voit ça même dans l'éducation nationale aujourd'hui.
Ce qui montre qu'ailleurs que c'est pas juste un problème d'employeur privé, entre
parenthèses. Non, c'est vrai aussi dans le public.
Effectivement, il y a des métiers où les conditions de travail font que les gens ne restent pas. L'hôtellerie-restauration a ce problème. Ils travaillent, je pense que vous le savez, sur éviter tous les week-ends travailler, éviter la coupure entre midi et le soir. Donc oui, on doit travailler aussi, nous les employeurs, privés ou publics, sur l'attractivité des métiers.
Sur l'attractivité des métiers. Geoffroy Roux-de-Bézieux, j'ai aussi une dernière question sur le travail en lui-même. Emmanuel Macron a beaucoup insisté sur le travail. Les candidats LR nous parlent de travail et tout le monde dit il faut travailler plus. Ça veut dire quoi travailler plus? Ça veut dire travailler plus de 35 heures par semaine?
Alors, oui, non. Je veux dire par là que c'est la quantité de travail d'un pays qui fait sa richesse, qui permet de payer.
On travaille pas assez en France.
Alors, il y a trois choses. Il y a la quantité de gens qui travaillent. On a un peu parlé. Le plein emploi, ça résout un paquet de problèmes de déficit des régimes sociaux.
Oui.
Parce qu'il y a plus de gens qui cotisent.
Bah, évidemment.
Donc ça, c'est le premier.
Retraite, sécurité sociale, etc., etc.
Après, on a un problème de taux d'emploi, de nombre de gens employés à la fin de la carrière, c'est-à-dire 60-65 ans d'un côté. Là, c'est l'âge de la retraite. Et au début, chez les jeunes. Ça s'améliore fortement chez les jeunes depuis un an. Et puis après, il y a le temps de travail annuel, parce qu'au fond, la semaine n'est pas forcément l'indicateur le plus parfait. Et on travaille.
C'est une erreur, d'ailleurs, de prendre la semaine comme indicateur.
Mais je trouve que vu l'évolution du travail, notamment chez les cadres, c'est de moins en moins pertinent.
Trop de vacances en France.
Je vais pas. Je pense que vous voulez me faire une dépêche AFP avec.
Non, pas du tout. Non.
C'est pas le bon indicateur.
Je me moque de la dépêche AFP. Ce qui m'intéresse, c'est votre. Votre point de vue.
Je pense que vu l'évolution des métiers et notamment dans les professions intellectuelles et les cadres, l'obsession française de l'horaire hebdomadaire, de la pointeuse au fond, c'est un peu un truc du XXe siècle en réalité. Ce qui compte, c'est la quantité de travail dans l'année et qu'on répartisse après.
Dans l'année, on travaille moins.
On travaille moins qu'ailleurs en Europe. Alors on me répond
plus de jours fériés, plus de vacances, ou pas plus d'heures par semaine.
Non, mais souvent on me dit oui, mais la productivité des Français est meilleure.
C'est vrai ou pas ?
Oui, c'est vrai. Alors ça dépend des métiers, mais oui, c'est vrai. Mais au total, si vous voulez, et au fond, c'est le vrai débat. Comment on fait pour financer notre modèle social qui est très généreux ? Il y a deux solutions. Soit on baisse les prestations, en gros, on rembourse moins la sécu, soit on a une quantité de production de richesse qui est plus importante. Et nous, on milite pour que la deuxième solution, qui est la seule possible.
Regrouper mutuelle et sécu, c'est une bonne idée ou pas ?
Non. Une très mauvaise idée.
Une très mauvaise idée.
Il y a des choses à faire autour des mutuelles, notamment sur leurs coûts, mais la nationalisation de tous ces systèmes est une mauvaise idée.
Merci Geoffroy Roux de Bézieux d'être venu nous voir ce matin sur RMC BFM TV.